Salut les rebelles intelligents. Il y a récemment quelqu'un qui est venu à la maison et qui a vu ça. Et quand elle a vu ça, elle m'a dit « Waouh, c'est incroyable, tu lis un bouquin de philosophe, mais comment tu fais ?» Et franchement, ça m'a un peu surpris parce que pour moi, en fait, ça me paraît complètement normal, voire même banal. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui se laissent impressionner par ce genre de livre avant même de l'avoir lu et que du coup, ils n'ouvrent jamais. Ce qui pose un petit problème vu qu'ils sont impressionnés par un truc et finalement ils vérifient jamais s'ils ont raison d'être impressionnés ou pas. Et je vous assure que ce livre de Sénèque, il se lit tout à fait facilement, c'est très intéressant et c'est rempli de conseils concrets et modernes pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Alors oui, il est très gros, mais en fait, je lis qu'une toute petite partie du bouquin. J'ai acheté ce livre uniquement pour les lettres à Lucilius. C'est une série de lettres que Sénèque a envoyées à un correspondant qui s'appelait Lucilius, qui était un de ses disciples. Alors rapidement, Sénèque, c'est qui? C'est un philosophe du 1er siècle, un philosophe romain qui vivait à Rome. Et ce qui est très intéressant chez ce philosophe, c'est que c'était tout simplement l'homme le plus riche de Rome. Ouais, c'était carrément le Bill Gates de l'époque en fait. En plus de ça, il était vraiment très connecté dans les hautes sphères. Il a notamment été le précepteur, le conseiller de l'empereur Néron, qui au début eh bien, était un bon empereur et qui après a eu un léger petit grain. Je lis qu'une toute petite partie de ce livre et ces lettres, franchement, elles se lisent extrêmement facilement. Et récemment, je suis tombé sur la lettre numéro 17 que j'ai trouvée absolument fascinante et frappante. Donc, je ne vais peut-être pas vous la lire en entier, mais je vais vous en lire une bonne partie parce que je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Alors, c'est écrit un petit peu en vieux français, mais on va dire du français du début 20e siècle. Donc, je vais essayer d'adapter un petit peu en temps réel pour que ça soit plus digeste. Alors, ça commence comme ça. « Rejette de loin toutes ces futilités si tu es sage ou pour être sage. Porte-toi rapidement de toute ton énergie vers la santé mentale. Et si quelque attache t'empêche de le faire, dénoue cette attache ou tranche-la. Mais ce qui m'arrête, dis-tu, c'est mon patrimoine. Je veux y mettre ordre de façon qu'il puisse me suffire sans travail. Ainsi, je ne serai pas gêné par la médiocrité de fortune. » Alors, je précise ici, fortune, c'est dans le sens de hasard, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et du coup, ben là, il veut se prémunir, c'est une sorte d'assurance. Il veut développer un patrimoine pour se prémunir des mauvais coups. En fait, tu saisis le principal, toute l'utilité de la philosophie. Mais le détail, tu ne le discernes pas encore assez nettement. Crois-moi, appelle la philosophie en conseil. Elle te dira de ne pas rester assis devant la table à calculer. Ce que tu cherches, n'est-ce pas, ce que tu penses gagner par tes atermoiements, c'est de ne pas avoir la pauvreté à craindre. Mais que se passerait-il si, en fait, elle est à souhaiter cette pauvreté? Beaucoup de personnes avaient la vocation philosophique. Leur argent a été l'obstacle. Tandis que la pauvreté va d'un pas dégagé, sans inquiétude. Quand quelqu'un crie « au feu !», la pauvreté cherche par où elle se sauvera de l'incendie, non ce qu'elle emportera. Ou bien doit-elle s'embarquer? Le port ne retentit pas de cris. La suite d'un seul voyageur ne met pas en émoi les rivages. La faim est peu coûteuse. Ce qui coûte, c'est un palais blasé. Pourquoi donc n'accepterais-tu pas la pauvreté comme compagne? Elle dont le riche raisonnable imite les mœurs. » Alors là, déjà, je trouve intéressant que Sénèque, qui d'ailleurs, évidemment, pense être un riche raisonnable, puisque c'était un riche qui avait un mode de vie frugal, eh bien, décrit comme ça un riche raisonnable. Et ça rejoint ce que je vous disais dans la vidéo sur le livre de Millionaire Next Door, sur les habitudes de beaucoup de millionnaires qui sont devenus riches en étant entrepreneurs, mais aussi en ayant un train de vie frugal. Et ça rejoint aussi l'exemple de plusieurs milliardaires qui pourraient vivre dans un luxe effréné, mais qui en fait choisissent de vivre une vie normale. Donc, par exemple, Warren Buffett, il y a eu Rockefeller aussi, d'autres exemples modernes, dont Steve Jobs par exemple, et ce genre d'entrepreneur. Tu veux t'occuper de ton âme, sois pauvre ou vis en pauvre. L'étude de la sagesse n'aboutit pas à de salutaires effets sans la pratique de la sobriété. Or, la sobriété est une pauvreté volontaire. Et ne tombe pas dans ces travers communs du genre « Oh, mais j'ai pas encore tout ce qui suffit. Quand j'arriverai à telle somme, alors oui, promis, je me donnerai à la philosophie tout entier. » Bon, ici, ce qu'il appelle philosophie, c'est en fait l'étude de ce qu'il faut pour avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue, pour être heureux, pour être un homme accompli, pour voilà, vraiment réaliser son destin et s'accomplir personnellement. Ce que tu dois avant tout acquérir, c'est bien cette philosophie que tu ajournes, que tu veux acquérir en dernier lieu. C'est par elle qu'il faut commencer. Oui, mais je veux, dis-tu, acquérir de quoi vivre. Eh bien, apprends aussi à faire l'acquisition de toi-même. C'est donc cela. Quand tu auras tout, tu voudras encore avoir la sagesse. Elle sera dans ton existence comme une dernière pièce de mobilier. Et disons-le, comme un accessoire. Allons, si tu possèdes quelque chose, pense dès à présent en philosophe. Qui te dit en effet que tu n'as pas déjà trop ? Si tu ne possèdes rien, recherche ce bien avant tout le reste. Pourquoi t'ajourner indéfiniment toi-même ? Attendras-tu le rendement de tes capitaux, le produit d'une spéculation commerciale, le testament d'un vieillard opulent quand tu peux, sur l'heure, devenir riche ? La sagesse livre les biens comptants. En les rendant inutiles, elle les donne. C'est quand même puissant, ça. La sagesse, en rendant les biens inutiles, te les donne. Mais cela peut-être n'est bon que pour d'autres que toi, qui n'est pas loin d'appartenir à la classe des riches. Parce que Lucilius était un haut fonctionnaire dans l'Empire romain et il avait déjà une réussite sociale pas trop mal. Eh bien, change de siècle et tu crouleras sous la richesse. Une seule chose ne change pas avec les siècles, ce qui suffit. Donc là, ce que veut dire Sénèque, c'est qu'il suffit de s'imaginer vivant il y a un siècle ou il y a deux siècles et tout simplement de se rendre compte des incroyables richesses qui nous entourent et qu'on prend pour acquis alors que ça aurait apparu comme de véritables miracles aux yeux des grands-parents de nos grands-parents. Et si on s'imagine ça, eh bien, d'un seul coup, même le truc le plus simple nous paraît extraordinairement incroyable et la personne la plus riche du monde, il y a 100 ou 200 ans, ne pouvait pas l'avoir. Et du coup, on se rend compte qu'on vit déjà entouré de richesses. Et en fait, à chaque fois que Sénèque finit une de ses lettres, il cite toujours, il emprunte une citation à quelqu'un pour inciter Lucilius à méditer dessus. Donc là, il cite Épicure qui dit « L'acquisition des richesses a été pour beaucoup moins la fin des misères que leur changement. » Et Sénèque conclut, « Je ne suis pas surpris cette citation. Le mal n'est pas dans les choses, il est dans l'âme. Ce qui nous faisait paraître la pauvreté pénible nous rend tout ainsi les richesses pesantes. Coucher le patient sur un lit de bois ou sur un lit d'or, le résultat est le même. Où que l'on transporte l'homme, il y transportera son mal avec lui. Loger une âme souffrante parmi les richesses ou dans la pauvreté, le résultat est le même. Son mal la suit. » Voilà, je vous laisse méditer là-dessus, les rebelles intelligents. Donc franchement, les lettres à Lucilius de Sénèque. Alors j'ai pris ce gros bouquin parce que souvent les lettres à Lucilius, en fait, c'est pas l'édition complète. Il y a eu plusieurs centaines de lettres, je crois. Et souvent, c'est une sélection. Moi, j'aime bien avoir tout pour pouvoir faire ma propre sélection. Après, c'est à vous de voir. Franchement, ça se trouve à 1 € sur le Kindle ou sinon d'occasion. Hein, c'est vraiment, voilà. Et voilà, c'est des lettres extrêmement courtes. Donc ce qui est génial, c'est que tous les jours, vous pouvez en lire une. Et parfois, vous tombez sur des pépites comme celle-là. Je trouve ça absolument fascinant. Donc, je vous recommande fortement la lecture. Sénèque, ça a presque 2000 ans. Mais comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de conseils qui n'ont pas perdu une ride. Et c'est très intéressant justement d'étudier un philosophe pratique qui existait vraiment dans le monde, qui n'était pas dans sa tour d'ivoire en train de pondre des théories et qui donne des conseils pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue dans des contextes parfois difficiles et tout en étant entrepreneur et en gagnant de l'argent. Hein. Ce qu'il dit là-dedans, ce n'est pas forcément de se débarrasser de l'argent, vous l'avez compris, c'est ce qui est important avant tout, c'est d'avoir une bonne âme et de faire une sobriété volontaire. Donc, on peut être riche et raisonnable en même temps. Je vous laisse méditer là-dessus. Hey! Merci d'avoir écouté ce MP3 qui est tiré d'une vidéo publiée sur la chaîne YouTube. Donc, comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous aimez écouter ces podcasts sur iTunes, eh bien, allez tout simplement sur iTunes pour noter cette émission. Voilà, donnez-lui une note si vous l'appréciez. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez voir les vidéos originales desquelles sont extraits les podcasts en allant sur olivier-roland.tv. Hein, olivier-roland, R-O-L-A-N-D. TV. Merci d'avoir écouté ce podcast. À demain pour de nouvelles aventures dans le prochain.